Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on diffuse les trois derniers épisodes de À l'œil nu, un océan à entendre, ainsi que des extraits de l'album Sonar Tapes de François Joncourt. Entre mars 2024 et mars 2025, Claire Visset a tendu son microphone aux professionnels, aux chercheurs et chercheuses, aux habitants-habitantes qui observent et cherchent à comprendre ce qui est à l'œuvre dans les milieux littoraux et maritimes. L'infiniment petit, le lent ou le lointain, le changeant ou le fragile, et qui nous concerne toutes et tous, nous, les terriens et terriennes.
N'hésitez pas à chausser vos écouteurs ou votre casque audio pour une meilleure qualité d'écoute.
Je n'ai jamais vu là. Levez bien la main là que je fasse un petit test. Ouais, donc c'est la grande majorité. Bon, bah c'est super.
À l'œil nu, un océan à entendre.
On peut vous emmener dans un endroit comme ça, vous allez voir.
Une série sonore en 6 étapes littorales, par Claire Veissé.
Ça, c'est une excursion dans notre mineur. Système climatique et environnement. Je pense que c'était aussi pour garder du science de la Terre, et donc de l'étude un peu géologique, climatologique, dans mon cursus, parce que là, je fais que la science de la vie, donc de l'humain et des plantes. Et je l'ai aussi pris parce que je veux devenir professeur d'SVT. J'ai grandi ici à côté, donc je venais souvent là dans le coin de la Palmyre et de Royan. Et donc je savais que la flèche poussait, grandissait d'année en année, qu'il y avait beaucoup d'érosion. En réalité, je pense que j'ai aussi fait cette mineure pour apprendre tout ce qui se passait autour de la côte. Je trouve ça bien de savoir comment, peut-être pas le préserver, mais savoir mieux le comprendre. Savoir ce que quelle nature nous entoure, les animaux, mais aussi tous les éléments géologiques, sédimentologiques ou océaniques qu'on a sur le littoral.
Et plus on en sait, plus on regarde, enfin mieux on regarde peut-être, je sais pas.
Oui, plus on ouvre l'œil pour comprendre tout ce qu'on a autour de nous. Aurélie.
Yes, Aurélie.
Quatrième étape. Le phare de la Coubre. Je note sur mon carnet. Marcher dans les dunes. L'impression de pouvoir les enjamber en quelques pas me demande beaucoup plus de temps pour les parcourir. Comme des vagues, à chaque fois, descendre, remonter, ça ne se termine jamais. Avec Sophia Blanchard de l'équipe d'accueil du phare, un soir, nous prenons une hauteur radicale.
Et voilà, on est arrivé tout en haut, maintenant au sommet, enfin quasiment, parce qu'il ne reste plus que la lentille qui est au-dessus de nous. Et voilà, on est pile à la pointe de la Coubre, dans l'entrée dans l'estuaire de la Gironde. Là, c'est vrai qu'on est vraiment en face des dunes. On voit à peine les clôtures parce que maintenant, elles se font un petit peu avaler par le sable de la dune. Et on voit aussi la forêt hein, qui se fait manger par la dune. Et c'est vrai que le paysage change d'année en année. Hein. J'aime bien cette vue-là parce que bon, déjà, on est en face de l'océan. C'est le meilleur spot pour voir le soleil qui se couche dans l'eau. Et puis, les dunes sont toutes lisses. Dès que c'est tout doux, on a envie de toucher le sable du bout des doigts.
Ça s'allume ?
Non, je crois pas. Pas encore.
Avec Éric Chaumillon et ses étudiants, nous prenons la mesure.
Alors là, on profite un petit peu du point haut. Alors on profite du paysage. Vous me dites ce que vous voyez.
Là, il y a l'embouchure de la Gironde qui arrive.
Ben voilà, c'est ça. Donc là, on va avoir une plage qui va être plus influencée par l'estuaire. On voit l'embouchure. Qu'est-ce que vous voyez? C'est vraiment à regarder dans le paysage. Hein.
Oui. La végétation est juste derrière la dune.
Ouais.
Qu'elle recule vite, là. Rien que là, ça a recouvert tous les pilotis.
C'est ça. On voit que la dune est en train de rouler sur elle-même. Elle est en train de se déplacer. Et elle envahit la végétation. Donc du coup, il y a un contact très brutal qui témoigne du recul de la dune. Ok. Quoi d'autre?
Peut-être l'estuaire qui est plus développé là-bas.
Il est carrément plus développé, ouais. Il fait des kilomètres de large.
C'est plus plat.
Parce qu'il est plat, voilà. Et comme il est plus plat, la zone découvrante est plus large. Pourquoi il y a un estran là? Pourquoi la mer rentre là? Qu'est-ce que c'est que cette forme?
Parce que là, il y a une presqu'île.
Ouais, une presqu'île, ouais. Alors, ça a un nom, ça.
C'est une flèche.
C'est une flèche sableuse. D'accord. C'est une flèche sableuse, vous voyez qu'elle prend sa racine là. Alors on va aller voir exactement l'endroit de la racine. Ça, c'est toujours très spectaculaire de voir l'endroit où elle est née. Elle est née au début du XXe siècle, il n'y a pas très longtemps. Et puis elle a poussé vers le sud. Et puis après, elle s'est recourbée vers l'est. D'accord. Vous sentez la courbure là, vous la voyez? Donc ça fait un relief qui tranche avec l'estran et puis qui prolonge la barrière ici. Ouais, c'est arrêté de pousser puis qu'elle s'est recourbée à votre avis.
C'est pas parce qu'elle est estuaire, justement.
Pour l'essentiel, c'est une histoire de marée. Vous savez, vous avez quand même quasiment 6 mètres de marnage. Donc 6 mètres de marnage sur un estuaire qui fait 100 km de long et qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de large, ça fait un volume énorme. La flèche, elle voudrait bien aller vers le sud. Mais il y a les courants de marée qui tous les jours disent « Ah non, c'est le flot, ah non, c'est le jusant, c'est le flot, c'est le jusant ». Et la flèche ne peut pas pousser. On a de la chance parce qu'on a des cartes historiques, bathymétriques et topographiques. Donc ça, c'est 1824. Et puis celle-là, c'est juste avant l'an 2000. Alors déjà, dites-moi où on est. Hop, sur là. Voilà, on est à la racine de la flèche. Et qu'est-ce qu'on voit?
Pas la flèche
sableuse
avant?
Ben oui, il n'y avait carrément pas de flèche, truc de fou. Et surtout, à la place de l'endroit où on est, regardez, il y avait une espèce de triangle de sable qui allait au large, comme un cap. Il a disparu, lui, carrément, plus rien. On a perdu plus de 2 km de côte au 19e siècle, 20 mètres par an. 20 mètres par an de recul. Donc c'est pas un phénomène nouveau. Donc là, on est passé de 20 mètres par an à 2 mètres par an. Donc il y a beaucoup moins d'érosion qu'avant. Mais il y a quand même de l'érosion. Alors évidemment, exacerbée par l'élévation du niveau des mers, un petit peu en ce moment, et de plus en plus à cause de l'accélération, c'est pas prêt de s'arrêter. Une côte qui s'érode depuis aussi loin qu'on puisse porter le regard, c'est-à-dire des premières cartes, en fait. Hein. On fait notre petit tour.
Vous en pensez quoi justement de cette évolution de l'érosion et du coup de ce phare qui va peut-être être déconstruit?
Oui, alors on voit bien que le paysage évolue et c'est vrai que je me demande à quoi ça ressemblera dans 50, 100 ans. Je pense que ce sera très différent et oui, l'érosion, c'est inquiétant. Après, ce que ça m'évoque, je pense qu'aucun bâtiment n'est vraiment immortel. C'est comme nous, finalement, on est là sur cette terre, mais finalement on partage la terre avec la nature et c'est normal qu'au bout d'un moment, la nature, qui est plus puissante que nous, je pense, reprenne ses droits aussi. Il y aura peut-être d'autres choses à la place, peut-être que ce sera l'océan ici, dans plusieurs dizaines d'années, à la place du phare.
Donc Donc là, on voit bien ce phénomène de recul de la dune. Cette barrière qui a poussé. Alors là, on voit. Plus on va avancer, plus on va voir sa courbure. À la fois, cette barrière, elle a créé la baie. Et maintenant, cette barrière, comme elle recule, eh ben, en fait, elle diminue aussi un petit peu la baie qu'elle a créée. Parce qu'on voit bien que là, la dune est en train de migrer à l'intérieur de la baie. Alors ça s'appelle la baie de Bonance. Et cette flèche sableuse s'appelle la flèche de la Coubre. Donc là, je pense que vous êtes convaincus que le littoral, c'est quelque chose de dynamique. Hein, puisque là, je vous emmène dans un secteur où on a perdu 20 mètres par an au 19e siècle. Et juste à côté, on a une flèche qui a poussé à quasiment 80 mètres par an pendant 70 ans. Au bout de 70 ans, bim, ça y est, il y avait une baie qui était formée. La baie, donc, bah forcément, très rapidement, les courants de marée se sont mis là-dedans. Mais comme les courants de marée, bah, au départ, ils sont forts à l'embouchure, mais qui diminuent, il n'y a pas de vagues, bah, le sédiment s'est déposé, donc la baie s'est comblée. Bon, si on était en zone tropicale, hein, on aurait une mangrove, là.
Alors là, on le voit presque plus. C'est rigolo, on dirait une orange un petit peu. Une demi-orange. C'est beau quand même, on le voit disparaître. Au début, c'était une sphère et puis maintenant, plus qu'un demi-cercle. Qui va juste disparaître et puis voilà. Ce sera déjà la fin de la journée et puis le début de la soirée pour le phare d'ailleurs. Ça va vite quand même, je trouve. On dirait qu'il est en train de se noyer dans l'océan. Et voilà, il a totalement disparu maintenant. Oh, presque, oui. Et là, on voit plus que de la brume, plus de soleil. Est-ce que la lentille est allumée maintenant ? Elle est allumée ? Ah oui, elle est allumée.
Et là, on est juste en dessous de la lancée qui tourne.
Il reste plus qu'une dizaine de marches à gravir et on sera vraiment tout en haut.
C'est assez sombre quand même.
Vous venez d'écouter à l'œil nu un océan à entendre. Quatrième étape. Le phare de la Coubre à la Tremblade. Avec Aurélie et les étudiants de l'Université de La Rochelle, Sophia Blanchard et Éric Chaumillon. Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité. Prochaine étape, le phare de Grave au Verdon-sur-Mer. We'll be right back. À l'œil nu, un océan à entendre. Une série sonore en 6 étapes littorales par Claire Veissé.
Le littoral, c'est-à-dire cette mince frontière entre la terre et la mer, donc c'est à la fois des formes abstraites et très concrètes. C'est assez délectable de suivre le trait de côte et le dessiner, le crayon qui suit le chemin comme ça. Et puis nous sommes des terriens, on ne vit pas dans l'eau, donc finalement on a tendance à penser que notre territoire s'arrête au trait de côte. Il y a tout ce qu'on ne voit pas sous l'eau, à savoir la bathymétrie, la mesure de la profondeur de l'océan, selon qu'il s'agisse d'estrands, de haut fond, de bas fond. Dans ces toponymes marins, chaque rocher presque dans l'Atlantique a un nom. C'est la jument, la truie, le chien, le chat, la vieille, le curé, etc. Et c'est quand même assez fou de se dire que chaque petit bout de rocher est nommé. En fait, on nomme quelque chose qu'on aime, on nomme quelque chose qu'on ressent, on nomme quelque chose qui nous touche et qui fait partie de nous.
5e étape, le phare de Graves, au Verdon-sur-Mer. Mars 2024. J'écris sur mon carnet. Il me semble qu'on essaie par tous les moyens de comprendre, de connaître, de maîtriser, d'aménager, d'utiliser.
Comment sont les paysages sous-marins depuis la côte vers le large ? Là, on est sur des côtes exposées aux vagues, donc le prolongement de la plage sous la mer. C'est une plage sous-marine, c'est du sable, avec une pente douce vers le large. Quand on est dans l'estuaire de la Gironde, c'est des reliefs sableux, pour l'essentiel. Les morphologies sont plutôt planes, c'est des fonds plutôt plans, sauf aux endroits où on a creusé pour extraire du sable. Et là, dans ces grandes fosses artificielles, eh bien, on va retrouver des dunes sous-marines qu'on trouve aussi d'ailleurs ces dunes dans le grand chenal de marée de l'estuaire de la Gironde à l'embouchure, c'est-à-dire au sud de Royan. Là aussi, il y a plein de dunes sous-marines.
Novembre 2024. Rendez-vous Éric Chaumillon, géomorphologue du laboratoire Liens de La Rochelle. Mars 2025. Je rencontre Jacques Gervais, membre de l'association Estuaire pour tous. La boucle est bouclée, ou presque.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu reconstruire, donc avec le béton, le matériau qui était déjà en vogue à l'époque, du béton. Pour faire du béton, il faut du sable. Le sable, on va le chercher au fond de l'eau, soit en rivière ou en lac, ou au fond de la mer, comme on est au bord de la mer. On a extrait du sable pendant des décennies, sans aucun cadre.
Il y a un estuaire qui fait 100 km de long, qui peut faire plusieurs kilomètres de large. C'est un très gros objet qui est orienté du nord-ouest vers le sud-est. Et bien, cette direction, cette forme, elle s'explique avec un héritage géologique, des couches géologiques qui se sont mises en place bien avant l'estuaire.
Une vieille concession, 2003-2023, situé dans l'axe médian de l'embouchure, donc à moins de 3 km de la côte et de la pointe de Rave, c'est au beau milieu de l'estuaire. Cette concession a fait l'objet d'une demande de prolongation de la part de l'entrepreneur. Donc, cette demande de prolongation est en cours d'instruction depuis juillet 2023 au ministère en charge des mines. Pas de réponse pour le moment.
Et puis, de toute façon, la forme elle-même de l'estuaire aussi, elle a mis plusieurs milliers d'années à se mettre en place, puisque c'est d'abord une vallée qui a creusé l'estuaire quand le niveau de la mer était plus bas.
Mais il se trouve que l'entrepreneur continue à extraire du sable et à le vendre, bien que la concession soit terminée. En toute légalité, le code de minier lui permet d'extraire du sable en attendant que la notification de prolongation lui soit accordé. C'est l'article L142.9 du code minier. sur le plantain de Grave, il peut faire 2 rotations par jour. Parce qu'il le décharge du côté de Talmont. Talmont sur Gironde, c'est sur la rive droite, c'est à une trentaine de kilomètres en amont de l'embouchure. Donc c'est très rentable pour eux.
Et puis quand la mer est remontée, c'est une vallée qui s'est ennoyée, qui a été inondée par la mer, et puis qui s'est partiellement colmatée par des sédiments et qui aboutit à la morphologie actuelle. Pour expliquer tout ça, il faut plusieurs millénaires.
C'est un bateau au milieu de l'estuaire. L'estuaire, là, à cet endroit-là, il fait 5 km de large. Donc c'est très très discret. Hein. C'est pas bruyant, on le voit pas, on voit un bateau là. Bon. Il faut savoir qu'ils sont en train d'extraire du là pour vraiment observer avec une paire de jumelles. Hein. Enfin bon, c'est une zone de passage de frayère et de nourricerie pour de nombreux poissons, dont les sturgeons. D'autre part, on a deux grandes plages là, qui sont fortement érodées. Hein. Donc c'est un tout. C'est un tout qui est à protéger. Donc, je suis né ici, moi. Donc j'habite en face, là, de l'autre côté de la rue. Et moi, j'ai fait ma carrière à Paris. Mais quand je suis revenu ici, bon, avec une bande de copains, on a fondé l'association. Ouais. On passe du temps sur les dossiers, hein, surtout quand on n'est pas spécialiste. J'étais conducteur de train. Voilà, il a fallu que je prenne tout à zéro. Hein. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est très chronophage. Voilà, pour essayer de maintenir une biodiversité minimum quand même, dans l'estuaire, que ça ne devienne pas un désert. Un désert sans poissons, sans animaux, sans crustacés.
L'échelle géologique, c'est essayer de comprendre les grandes formes du littoral à grande échelle spatiale. Et bon, la singularité de la période actuelle, c'est qu'effectivement, on a tout un tas d'indicateurs qui montrent que l'homme est devenu l'équivalent d'une force géologique. L'homme est capable de façonner, de transformer les paysages, mais de façon géomorphologique, hein, faire des creux et des bosses, des montagnes, des dépressions gigantesques, exactement comme le font l'érosion, les séismes, les volcans, etc. On appelle ça l'anthropocène.
Là, je regardais les bouées, les oiseaux, les mouvements au-dessus de l'eau, un peu tout.
Vous avez l'habitude de venir ici?
Ah oui, mais je suis ici, moi. Ouais, j'aime bien là, ça. Je respire. J'adore venir ici.
Et comment ça s'appelle ici, en fait?
La pointe de Grave. C'est là, on est vraiment à la pointe, pointe.
Vous venez d'écouter à l'œil nu un océan à entendre. 5e étape, le phare de Grave au Verdon-sur-Mer. Avec Marine Le Breton, Éric Chaumillon, Jacques Gervais et l'inconnu de la pointe. Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité. Prochaine étape, le bac de Gironde entre Blaye et La Marque.
Thank you.
à l'œil nu, un océan à entendre. Une série sonore en 6 étapes littorales. Par Claire Veissé. 6e et dernière étape.
Embarcadère de Blaye. Bac de Gironde.
Le bac entre Blaye et Lamarque. J'écris sur mon carnet. Enregistrer navigation de la traversée. Dit quelque chose des courants et du débit.
Là, les gars, ils répartissent les voitures en fonction de... Ça va être triste. Si vous voyez d'ici.
Hauteur des marées mesurées en Gironde. Bordeaux, 2 mètres, 68, Bastin. 2 mètres, 93, le Marquis, 3 mètres, 16, Rambès, hors service, Fort Médoc, 3 mètres, 96, Royac, 4 mètres, 24.
Donc 3 mètres, 96, on va reprendre le même chemin, on va dire, que par lequel on vient d'arriver. Ça paraît pas, mais à marée basse, enfin, du moins, là, on les aperçoit, les bancs de sable, ici. Donc là, j'ai pas assez d'eau, donc moi, je décide de passer par là. Ok. On peut larguer.
C'est bon, Gratien, tu peux reculer, on va reculer de ouais, un peu plus de 5 mètres. 4. 2 mètres. 1 mètre, ouais, c'est bon, tu peux étaler.
J'écris sur mon carnet, longer les rives, chercher différents points de vue sur l'estuaire. Enregistrer clapotis, enregistrer roselière.
C'est incroyable. Hein.
On entend beaucoup de remous sur
ouais, ouais. Il faut que j'aille lever mes nasses.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez?
Bénédicte. Tavernier. Mon papa était pêcheur professionnel. Je pense que je suis né sur la Garonne.
Il y a une saison particulière pour les crevettes.
La crevette, vous pouvez la pêcher de juin jusqu'en novembre.
Vous allez un peu sur l'eau des fois ?
Oui. pour pêcher aussi ou alors pour se balader. En fait, le bateau appartient à mon frère et il nous arrive de sortir jusqu'en Metz.
Si je ne me trompe pas, on ne peut pas aller à pied jusqu'à la pointe. Si, on peut.
Ah si.
Ah, je pensais que c'était...
Si vous continuez cette route-là,
ouais.
En voiture ou à pied, vous allez jusqu'au bec d'Ambès, jusqu'au bout.
Ah bon, d'accord.
Il faut toujours longer l'eau.
Mm-hmm.
Et vous arrivez au bord
de la pointe.
De la pointe.
Mars 2025, rendez-vous avec Claire Steimer, historienne du patrimoine.
Ici, on est sur le bec d'Ambès, quasiment à la pointe de ce bec. Alors, bec, ça, c'est la forme, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une pointe formée de limons qui se sont accumulés au cours du temps et qui ont façonné cette confluence entre les deux rivières que sont la Garonne et la Dordogne, qui se rejoignent là pour former l'estuaire de la Gironde. Même si, effectivement, ce bec, c'est le début, c'est la fin, mais c'est artificiel. On ne peut pas circonscrire cet estuaire avec juste un trait. Donc c'est un territoire de zone basse, hein, de zone humide. Et très rapidement, l'homme a voulu exploiter ces terres. Donc très certainement dès le Moyen-Âge. Donc construction de digues pour consolider cette langue qui n'était pas fixée. Mais finalement, c'est l'homme qui a décidé quand même hein, de fixer ces territoires mouvants avec des digues, avec des canaux. Donc on a fait de la vigne, hein, notamment sur ce secteur. Et le paysage industriel, évidemment, il est très récent. Hein, il date du début du XXe siècle, donc il y a 100 ans, où ce coin un peu isolé, mais en même temps un jalon très stratégique. Donc on va renforcer les aménagements et on va même renforcer progressivement cette pointe. Ce qui fait que sur le cadastre, force est de constater que cette pointe, elle a avancé. C'est étonnant parce que donc cette petite pointe du bec d'Ambès se situe non pas sur la commune d'Ambès où nous sommes là aujourd'hui, mais sur la commune de Bayon, rive droite. Ça montre vraiment cette mobilité des paysages, cette mobilité du territoire, ces mutations et l'effet papillon un peu. C'est-à-dire qu'on va faire un aménagement à un endroit et on ne se rend pas compte que ça va avoir une implication ailleurs. On va vouloir défendre, endiguer, protéger en dur un secteur et on ne se rend pas compte que derrière il va y avoir du coup des phénomènes d'érosion des berges très importantes, etc. Parce que on veut maîtriser. Donc c'est sûr que des sites comme ça, industriels, dangereux, des sites très urbanisés, y a des enjeux énormes. Donc il faudra pas sacrifier, mais en tout cas rendre à la nature des zones humides, des marais qu'on a mis des siècles à assécher. Et vous voyez, c'est l'amont, l'aval, comment tout est connecté, comment tout est lié. Voilà, et c'est vrai que c'est assez vertigineux, quoi. Et ça, là, on est à l'échelle de l'estuaire, mais voilà, à l'échelle du littoral, évidemment, et puis à l'échelle de notre planète. On aperçoit le bout du bout, mais on est bloqué par les grillages.
on commence à avoir un autre point de vue sur l'estuaire par rapport à tout à l'heure où on était au Radgo. Christian, que j'ai rencontré il y a pas si longtemps, hein. Son travail m'a beaucoup touché parce que j'ai reconnu l'estuaire. La question de la représentation de cet espace immense, changeant, c'est une question que je m'étais déjà posée. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit, mais cet homme a trouvé, c'est sa solution, mais il a trouvé une solution pour arriver à représenter ça.
Alors au début, je n'ai rien compris à ce que vous voyez. Il m'est arrivé, à la place où vous êtes, en 67, d'essayer de dessiner. Mais alors que choisir? Les verbes au premier plan, les maisons en dessous, les villages qui passent, l'estuaire qui change tout le temps de coloration, selon que la marée monte ou descend. Comme m'avait dit une fois une marchande de tableaux, arrêtez de mettre les couleurs, vous savez bien que ça ne se vend pas. Quand on connaît bien l'estuaire, le bleu du ciel crée un ciel d'en bas où la résonance entre les ocres et le bleu du ciel d'en bas. Un blé qui n'existe que là, mais je vous le décommande en juin, par exemple, quand la lumière du soleil écrase tout et qu'il fait chaud, que rien ne se passe, c'est un lieu qui est désertique. Ma vie, à Paris, j'ai beau vouloir peindre, c'est toujours le bleu des estuaires qui gagne et qui s'impose à moi. Je suis Christian Gardner. Vous parlez à quelqu'un d'anonyme du XXe siècle. Un simple voyageur sur la Terre. J'imagine volontiers, oui, la fin de la planète, avec les pierres qui continuent dans la quille, à circuler son eau. J'imagine aussi les pierres sans eau. Ça doit être très intéressant à voir.
Vous venez d'écouter « À l'œil nu, un océan à entendre ». Sixième et dernière étape, le bac de Gironde entre Blaye et Lamarque. Avec Gratien Charpentier, Bénédicte Tavernier, Claire Steimer, Stéphane Amouroux et Christian Gardner. Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité.
La séance de gymnastique se termine. Vous avez entendu les trois derniers épisodes de À l'œil nu, un océan à entendre, une série documentaire de Claire Vesset, ainsi que Interlude 2, Chaos in Lab, suivi de Depressed Lavae, et Interlude 3, 20 mètres de fond, suivi de O Spitzberg, extrait de l'album Sonar Tapes de François Joncourt. Pour plus de brasses sonores, rendez-vous dans les archives de l'émission sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.